Le fromage du Québec à 5,47. Grosse vente, grosse économie. Plus de détails en circulaire et chez Maxi.
Des plombiers compagnons ou apprentis, tu cherches une entreprise solide, Plomberie PHCB recrute. Poste en plein, travail à l'année, salaire commercial et avantages selon la convention CCQ. Résidentiel, multilogement, commercial. Joins-toi à une équipe stable avec des projets variés et un environnement respectueux. Si t'es autonome, fiable et que t'as le souci du travail bien fait, c'est ta place. Plomberie PHCB, solidement implanté au centre du Québec depuis 1993. Visite plomberiehcb.com, section carrière.
Les manchettes sportives, présentées par BPM Sport. BPM Sport, la radio des sports au Québec.
Hey, c'est le dernier match du Canadien en cette saison 2025-2026. Les Hurricanes mènent la série 3-1 et pourraient accéder à la finale de la Coupe Stanley pour une première fois depuis 2006. La force du CH en série, ils sont solides à l'extérieur. Deux victoires en match ultime contre Tampa et Buffalo sur les patinoires adverses. Ça peut être un facteur pour un gros duel comme celui de ce soir. Le match 5 aura lieu à Raleigh dès 20h. On a eu droit à une petite revanche au championnat du monde d'hockey hier. Le Canada a eu le dessus sur les États-Unis. Une convaincante victoire de 4-0. Mark Scheifele a récolté 2 points. Crosby et Celebrini ont touché la cible. Direction les demi-finales pour les Rouges. Ils se mesureront à la Finlande demain. Et dans la Ligue frontière, quelle volée hier au Stade Canac. Grosse victoire de 11-2 des Capitals sur les Miners. Une série balayée en plus de ça. Québec est premier dans la Ligue. Un gros 12 victoires, 4 défaites seulement. Good job, boys. Direction Trois-Rivières pour ce week-end. Ça commence ce soir, 19h05.
Pour plus de sport, c'est BPM Sport.
BPM Sport.
100.9.
Présenté par Tivière Géfis, l'expert en puits artésiens, pompes et traitements d'eau, effectue vos travaux de forage les plus complexes sur des terrains sinueux et même de grands diamètres. TivièreGéfis.com.
Choix.
Hell yeah!
Choix. 98.
Yeah! 98.
1. Radio X.
Choix.
À Québec. C'est Radio X.
Choix.
Radio X.
Faites-vous
votre propre opinion.
Les Radio X-Files présentés par Tibi Taxi. Besoin d'un taxi rapidement? Ouvre et télécharge l'application Tibi Taxi dès maintenant. Simple, rapide et efficace. Tibi Taxi, on roule pour le Québec.
Oh my gosh! They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Oh my gosh!
Radio X.
Voici donc les diables que je dois gronder.
Excusez-moi. Vous croyez que cela va suffire?
Qui est cet enfant?
D'Artagnan, votre majesté.
Trois duels aux 3 heures avec 3 mousquetaires.
Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et wow. Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde.
Je vous trouve bien arrogant, jeune homme.
C'est ma seule richesse. Et je la mets tout entière au service de sa majesté. Charles d'Artagnan.
J'ai bien connu votre père. Que puis-je faire pour son fils?
Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire.
Vous allez rejoindre les cadets. Et peut-être un jour, vous serez mousquetaire.
Bienvenue dans les Radio X-Files avec Christian Page et Nick Cloutier. Et bien, vous avez reconnu le nom des personnages des Trois Mousquetaires, assurément. Christian Page, ce soir, on va parler de ces mythiques personnages qui étaient les Trois Mousquetaires.
Oui, en fait, notre émission est consacrée aux énigmes de l'histoire.
Oui.
Et en voici une hein, qui est assez étonnante et qui nous plonge en plein dans l'actualité en ce moment. On a découvert il y a quelques semaines maintenant dans une petite église de Maastricht, hein, on est aux Pays-Bas. En fait, c'est une église qui est plutôt contemporaine, mais en février dernier, le plancher de l'église s'est effondré.
Okay.
Alors, évidemment, on a fait venir des architectes ouais. et tout ça pour regarder. Et là, évidemment, on s'est rapidement constaté que l'église actuelle est construite sur une ancienne église qui, elle, date du 13e siècle et que cette église a été maintenue en place pendant une longue période de temps avant d'être rasée et que l'église actuelle soit construite par-dessus. Et donc, au moment où on constate tout ça, on commence à faire des fouilles, évidemment, pour s'assurer là, qu'il n'y a pas de vestiges archéologiques qui sont enterrés à cet endroit. Et là, on va trouver un squelette. Et ce squelette, il a la particularité d'avoir juste à côté de lui de la monnaie française. Et là, évidemment, on s'interroge. Bon, un squelette enterré à cet endroit avec de la monnaie française.
Ouais,
et en même temps, quand on regarde l'ensemble du contexte, on constate que là où se trouve le corps, c'est l'endroit où se trouvait jadis, dans l'ancienne église, l'autel de l'église. Or, seuls les nobles ou les personnages très importants ont pu être et avaient ce privilège d'être enterrés à l'endroit où se trouvait l'autel de l'église. Okay. Donc forcément, ici, on se dit c'est quelqu'un de très important. Et ce quelqu'un, le fait qu'on retrouve aux côtés de lui des pièces de monnaie française, doit forcément être un Français. Or, quand on regarde dans l'histoire de Maestricht, le premier Français qui vient à l'esprit, c'est D'Artagnan. D'Artagnan, l'un de ces fameux trois mousquetaires, en fait des quatre mousquetaires,
ouais.
Qui a inspiré le roman d'Alexandre Dumas père. Et donc, il faut rappeler que le roman est paru en 1844 et ça a été probablement l'œuvre la plus marquée d'Alexandre Dumas et qui a été adaptée là, 1000 fois ensuite au cinéma, à la télé, tout ça. Il faut quand même souligner que l'œuvre d'Alexandre Dumas est une inspiration d'événements réels, mais pas forcément un compte-rendu d'événements réels. Hein.
C'est pas un documentaire.
C'est pas un documentaire. Et il faut quand même se rappeler que de son vivant, D'Artagnan n'a jamais côtoyé Porthos, Athos et Aramis.
Ah bon?
D'ailleurs, ces trois mousquetaires, Porthos, Athos et Aramis, ont servi dans les mousquetaires alors que c'était le roi Louis XIII qui était au pouvoir et sous le règne, à ce moment-là, de l'Éminence grise qui était le cardinal de Richelieu. Mais à ce moment-là, D'Artagnan, lui, avait 4 ou 5 ans. Donc, il n'a pas pu servir.
C'est pas possible.
Donc D'Artagnan arrive, en fait, beaucoup plus tard. Il n'a probablement jamais rencontré Porthos, Athos et Aramis, comme je l'ai mentionné. Il arrive, lui, sous le règne de Louis XIV. Il est un mousquetaire, mais il arrive sous le règne de Louis XIV. Et à ce moment-là, le cardinal de Richelieu n'est plus en place. Il est décédé. Il a été remplacé par le cardinal de Mazarin. Donc, ce sont deux groupes qui sont assez distincts, là, Porthos, Athos et Aramis, et D'Artagnan. Mais bon, sous la plume d'Alexandre Dumas, il se permet de faire cette entorse à l'histoire et de faire rencontrer ces personnages. Mais dans les faits, ça demeure une fiction. La réalité est que oui, il y avait ce D'Artagnan, qui était un mousquetaire excessivement réputé. Et on sait que D'Artagnan, il est décédé. Hein, c'est pourquoi ce lien-là qu'on fait immédiatement en trouvant ce squelette, on sait que D'Artagnan a participé à ce qu'on a appelé le siège de Maestricht en 1673 et qu'il a été tué durant le siège de Maestricht. Il a été tué par une balle de mousquet. Et on ne sait pas où il a été enterré. Donc, on sait que c'est un personnage pratiquement légendaire, le personnage de D'Artagnan, le mousquetaire, mais où a-t-il été enterré? La seule chose que l'on savait à propos de son décès ou de son inhumation, c'est qu'il avait été enterré à Maestricht. Mais où à Maestricht? Et là, voilà qu'on trouve ce squelette avec ses pièces de monnaie et placé juste tout près de l'autel de cette ancienne église. Alors là, ben, tu comprends qu'immédiatement on fait l'association. Ici, c'était ce fameux D'Artagnan qu'on venait de retrouver. Donc le corps le corps a été retiré de cet endroit-là. Il a été placé, il a été envoyé à Deventer, qui se trouve aux Pays-Bas. Et là, on a procédé à, le 13 mars dernier, on a procédé à des prélèvements d'ADN pour en faire un séquençage. Il faut savoir que le D'Artagnan avait une longue descendance. Hein. Il y a eu 2 enfants au départ, et ensuite de ça, ces enfants-là ont perduré par la descendance, ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Et au niveau de la descendance masculine, parce que le véritable nom de D'Artagnan, c'était pas D'Artagnan. Là.
Ah non?
C'était Charles de Batz de Castelmore. Charles de Batz de Castelmore, dit D'Artagnan. Donc, la famille du côté masculin, les descendants de D'Artagnan se retrouvent dans la famille Batz et les descendants du côté féminin se retrouvent dans la famille Montesquieu. Donc, on se dit, donc ces gens-là sont vivants aujourd'hui, ils ont de l'ADN, on serait capable de retracer l'origine si on arrivait à faire un séquençage intéressant de l'ADN de ce squelette qu'on a trouvé à Maestricht. Donc, les prélèvements ont été faits. Et là, donc, on attend pour voir si on va obtenir un séquençage qui soit significatif, qu'on pourra ensuite comparer aux descendants de D'Artagnan et ainsi établir si oui ou non ce corps retrouvé à Maestricht était bel et bien D'Artagnan. Il y a un petit côté un petit peu amusant avec cette histoire-là. Ben, amusant, entendons-nous, là, c'est un rebondissement. L'archéologue en charge des travaux est un type qui s'appelle Wim Dischmann. Et Wim Dischmann, c'est un type qui est passionné par l'histoire de D'Artagnan. Donc, immédiatement, quand on a trouvé ce squelette-là et qu'on a émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir de D'Artagnan, on a fait appel à lui parce qu'il est réputé, comme archéologue, il est réputé que... C'est un passionné de l'histoire de D'Artagnan et depuis des années, d'ailleurs, il cherchait l'endroit où, à Maestricht, D'Artagnan avait pu être enterré. Et cet endroit-là, d'ailleurs, faisait partie des cibles qu'il avait identifiées. Hein, il disait, il y avait une église autrefois qui était là et D'Artagnan aurait pu être enterré. Donc, le fait de découvrir un squelette à cet endroit ne venait que confirmer une hypothèse qu'il avait déjà émise. Ben, sache que ce Wim Dischmann a été arrêté il y a quelques jours parce qu'il aurait apparemment volé des ossements de D'Artagnan.
Bon.
Tu sais, quand tu dis ta passion est trop dévorante.
Oh, oui, donc, là.
Il a participé à la supervision de l'enlèvement des restes qui ont été envoyés, comme je l'ai mentionné, à Deventer. On est toujours aux Pays-Bas. Il a assisté, il a supervisé l'enlèvement des restes et apparemment, durant cette procédure, il en a profité pour prendre des dents du squelette et des petits ossements pour les garder dans une collection privée. Hein. Donc, le type voulait avoir dans son propre musée chez lui des restes de D'Artagnan. Donc, il a été arrêté. Il a été questionné par les services de police. Il a été remis en liberté. Mais il devra faire face à des accusations. C'est-à-dire qu'on confirme, effectivement, il a avoué qu'il avait ramassé ses restes. Et donc, il va faire face à des accusations. Même s'il a été remis en liberté. On comprend que c'est pas quand même un crime de lèse-majesté, là. Mais quand même, c'est un retournement, un peu un rebondissement, un peu inattendu que l'archéologue en charge des travaux vole des ossements du personnage. C'est quand même étonnant. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est l'ADN au niveau des laboratoires d'ADN. On est plutôt du côté de Munich, en Allemagne. Et là, donc, on attend les résultats de ça. Et ensuite, on pourra les comparer au reste, aux descendants de la famille, pour confirmer ou infirmer que ce squelette était bel et bien celui de ce fameux mousquetaire célèbre qui était D'Artagnan.
Donc,
voilà.
D'Artagnan, qui n'était pas son vrai nom.
Non, ben en fait, c'est parce qu'ils ont toujours un peu de...
Ouais.
Ouais, c'est ça, c'est des noms, tu sais, dit Monsieur Machin, dit la comtesse de... Donc, dit le mousquetaire D'Artagnan, tu sais. Mais encore une fois, je te rappelle, son véritable nom est Charles de Batz de Castelmaur, dit D'Artagnan.
Voilà, on en saura plus sur ces personnages.
Oui, on en saura plus en attendant l'attente des analyses ADN.
Ouais,
ma deuxième nouvelle qui touche le domaine de l'histoire est un peu surprenante. C'est sorti il y a quelques jours. C'est un article, en fait, une étude, appelons ça comme ça, entre guillemets, là, une étude qui est parue dans le ResearchGate. ResearchGate, je tiens à te mentionner que même si ça a le mot « research » dedans, là, c'est un site Internet où on publie des publications scientifiques. Mais, entendons-nous, ce n'est pas le National Geographic. Là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comité de relecture autour de ça. Là. On a un site, on publie on propose des articles à caractère scientifique ou des études à caractère scientifique qui se retrouvent sur le ResearchGate et qui sont accessibles à n'importe quel chercheur. Mais comme le site lui-même n'a pas de comité de lecture, ce qu'on appelle un peer review, ben évidemment, n'importe qui peut publier n'importe quoi. L'étude ou la recherche sera torpillée ou non, là, mais bon, l'article paraît là-dedans. Et pour une communauté de néophytes, donc des gens qui ne connaissent pas forcément les mécanismes de publication à caractère scientifique, ben on peut se laisser tromper par ça, parce qu'on dit « Ah, c'est un papier qui est paru sur ResearchGate ». ResearchGate, ça laisse sous-entendre que c'est un site scientifique, alors qu'en réalité, c'est un site où on publie à peu près n'importe quoi. Donc, on a une étude qui a été présentée par un dénommé Jalal Jalfari. Donc, je m'excuse si la prononciation arabe n'est pas parfaite. Là. Et ce type-là se présente comme étant professeur à l'Institut des plasmas et des lasers à l'université Shahid Bahti en Iran.
D'accord.
Donc, son étude, crois-le ou non, il dit que les pyramides du plateau de Gizeh en Égypte, et là, j'adore ça parce que quel sujet inépuisable, les pyramides d'Égypte. Donc, il dit que les pyramides sur le plateau de Gizeh, je rappelle que sur le plateau de Gizeh, on est juste aux côtés du Caire. En fait, on est collé sur le Caire. Il y a trois pyramides de la 4e dynastie qui se trouvent là. Donc, 4e dynastie, on est grosso modo entre 2500 et 2300 avant Jésus-Christ, donc avant l'ère commune. Et les trois pyramides qu'on trouve là, de leur nom grec, hein, c'est la pyramide de Khéops, la plus haute pyramide. Ensuite, celle de son fils, Khéphren. Et ensuite, celle du petit-fils de Khéops et fils de Khéphren, Mykérinos. Et... par cet ordre, disons, père, fils et fils, et père, grand-père et petit-fils, on a également la dimension des pyramides, c'est-à-dire que la première pyramide, celle de Khéops, qui de son nom égyptien était Khoufou, cette pyramide est la plus haute, elle fait 147 mètres. Donc, à l'origine, elle faisait 147 mètres. Donc, quand on parle de la grande pyramide, c'est de cette pyramide à laquelle on fait référence, qui est la plus haute pyramide jamais construite en Égypte. Ensuite, la deuxième pyramide, celle de son fils, celle de Khéphren, mesurait à l'origine, là, grosso modo, 137 mètres. Tu me diras que c'est pas 10 mètres, c'est pas beaucoup, puis c'est vrai aussi. Quand on est aux côtés des pyramides, je les ai visitées à quelques reprises, quand on est aux côtés, la pyramide de Khéphren et la pyramide de Khéops nous apparaissent exactement les mêmes dimensions. Là. C'est ouais. deux monuments là, tout à fait extraordinaires. La pyramide, la troisième pyramide, celle du petit-fils de Khéops et fils de Khéphren, donc Mykérinos, elle fait une soixantaine de mètres seulement. Donc 60 mètres c'est
beaucoup plus petit.
Seulement, là, mais c'est beaucoup plus petit quand même. Là, ouais. on voit que c'est une pyramide d'une dimension beaucoup plus modeste. Donc, ce sont les trois pyramides du plateau de Gizeh. Sur le plateau de Gizeh, ben, dans les grands monuments qui subsistent encore, en dehors, outre les pyramides, il y a le Sphinx, évidemment, le grand Sphinx qui est là. Et il y a des vestiges. Parce que quand les gens regardent ça, et c'est important d'ailleurs pour la discussion, pour la suite de notre discussion, il faut comprendre que les pyramides d'Égypte, elle n'était pas unique sur le plateau. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que ça sur le plateau. Il y avait des temples funéraires qui entouraient... En fait, c'est un grand complexe funéraire. Les temples funéraires n'existent plus à peu près. Où il n'y a que quelques petits vestiges qui restent. Mais autrefois, essayons d'imaginer, là, on avait ces monuments-là, mais autour, on avait plein de temples qui étaient construits. Les pyramides n'étaient... que la cerise sur le gâteau, si je peux dire. Mais il y avait tout le gâteau qui était autour. Le gâteau, lui, a été ensablé, il a disparu, détruit. Les pierres ont été prises lorsque la ville du Caire a été construite. Des gens sont venus sur le plateau de Gizeh, ont pris ces pierres-là, des temples qui étaient déjà taillés. On les a amenés au Caire pour construire d'autres monuments. On les a recyclés. Donc, on a détruit, hein, d'une part, soit par l'érosion, soit par le temps, d'autre part, par le pillage. On a détruit ces temples. Mais il faut bien s'imaginer que les pyramides n'étaient pas seules. Elles étaient entourées de temples majestueux qui étaient des temples funéraires. Puis tu vas comprendre pourquoi je tiens à faire oui. cette précision. Donc, on avait ces temples, donc on a les trois pyramides. Et là, voilà que notre Jalal Jalfari, lui, nous dit que voilà, les pyramides, à son avis, étaient des balises interstellaires. Là, si on avait un son okay. criquet, ce serait le moment de le mettre.
Oui.
Bon, OK. Donc, c'est des balises interstellaires. Et,
qui fait quoi? Qui se pose à faire quoi? Donc, c'est pour communiquer?
En fait, ces balises-là, oui, c'est ça. C'est pour faire une espèce... Alors que la Terre tourne autour du Soleil, c'est comme si les pyramides émettaient une espèce de signal gravitationnel pour quelques intelligences étrangères, donc sous-entendre visiblement des extraterrestres. C'est donc, c'était l'objectif des pyramides. Et crois-le, là, tu dis, là, déjà, on est un peu dans la science-fiction, là, mais un peu, disons, beaucoup. Et là, on regarde le raisonnement du bonhomme en question, et son raisonnement est que, écoute, la pyramide, la position de la pyramide, celle de Khéops, bien sûr, la grande pyramide, elle se trouve à 29 degrés, 979 degrés nord. Donc, ils sont vraiment,
okay.
non,
29,979 degrés
nord. Ça, position de la pyramide. Et là, lui, ce type-là, Jalal Jalfari, dit la vitesse de la lumière, c'est 299,792,458 kilomètres secondes. Grosso modo, là, quand on parle de vitesse de la lumière, généralement, on dit 300 000 kilomètres secondes. En fait, c'est juste un petit peu en dessous de ça. Donc, si tu as pris note de ces deux chiffres-là, tu constates mm-hmm. qu'ils sont... S'il suffit de déplacer la décimale, tu te rends compte que ce sont deux chiffres qui sont très semblables. Donc, oui. Dans la séquence, là, on a, pour la position de la pyramide, en degrés, c'est 2, 9, 9, 7, 9. Puis pour la vitesse de la lumière, c'est 2, 9, 9, 7, 9, 2. Bon. Et là, lui, il se dit, écoute, Jalfari se dit, c'est tellement extraordinaire que ces chiffres-là se ressemblent de cette façon-là que ça ne peut pas être un hasard.
Évidemment.
Donc, les Égyptiens auraient construit la pyramide à une position qui rappelle la vitesse de la lumière et dans une onde gravitationnelle, elle fournirait cette information qui permettrait quelque part à des voyageurs du cosmos de pouvoir se guider ou, je sais pas, de pouvoir identifier que la Terre est une planète avec des formes de vie ou des civilisations. Bref.
Un code, un signe.
C'est une espèce... Mais ça, c'est... Tu dis, c'est même pas d'un niveau d'étude secondaire. Parce qu'il y a plusieurs éléments là-dedans qui tiennent pas la route. Premièrement, cette correspondance que Jafari propose, parce que là, j'ai vu passer ce truc-là, et là, sur des sites d'amateurs extraterrestres, surnaturels, c'est « Waouh! Les pyramides seraient des balises interstellaires pour des civilisations. » Attends une minute, là. La première critique, quand on regarde ça, là, assez froidement, puis je prends pas position, je suis pas là pour dire « Ah, pas d'extraterrestres, tout ça. » Je sais qu'il y a beaucoup de gens me voient un peu comme l'espèce de gars qui empêche de tourner en rond, puis qui est toujours en train d'écraser ces hypothèses-là. Mais à un moment donné, il faut faire preuve de sens critique.
Ben oui.
Quand tu regardes cette histoire-là, ce que tient finalement Jafari pour faire son espèce d'exercice intellectuel, c'est de parler de la position en degrés, en latitude, longitude, là, nord de la pyramide, et également la vitesse de la lumière en kilomètres secondes. C'est deux données qui n'existaient pas dans l'Égypte antique. Tu sais, cette idée des latitudes et longitudes, c'est apparu beaucoup plus tard. Ça, il y a eu une espèce de protocole chez les cartographes. Et au moment des grands voyages, on est à la fin du Moyen Âge, début de la Renaissance. Et là, on s'est dit, ben là, on va séparer le monde, on va faire des grilles pour permettre de mieux se localiser avec des codes. Ça n'existait pas, ça, à l'époque des Égyptiens. Les Égyptiens sont pas arrivés en disant « Oh, on va construire notre pyramide à 29 degrés nord. » Je sais, ça n'existait pas. Là. C'est une notion qui n'existe pas. T'sais. Et ensuite de ça, la vitesse de la vitesse de la lumière, lui, il nous dit « Ben voilà, quand je la compare avec le 29 degrés nord, ben je me constate que la vitesse de la lumière, c'est 299,792 000 km/s. » Le problème, c'est que tu calcules en kilomètres secondes. Ça aussi, ça n'existait pas dans le temps des Égyptiens. Tu comprends-tu? Les Égyptiens, à l'époque, j'ai fait le calcul, hein, les Égyptiens mesuraient avec ce qu'on appelait une des mesures qu'ils utilisaient, qu'on pourrait comparer au mètre, ce qui était le plus proche du mètre. C'est ce qu'ils appelaient, eux, une coudée royale. La coudée royale mesurait 52,3 cm. Ça veut dire qu'on est en dessous, là, on est à peu près à, grosso modo, là, à 1,5 m, là, tu comprends? Donc, un mètre et demi, on est loin du kilomètre, donc on a à peu près un peu en dessous d'un mètre. Donc, parce qu'un mètre, ça serait 90 cm, 100 cm. Puis ça, on est à 52 cm, donc c'est ça, on a à peu près un pied et demi. Donc, si on calcule en coudée royale, la vitesse de la lumière, je l'ai calculée, ça serait 562 462 coudées royales à la seconde. Donc là, tu te dis, bon, ça marche pas ton affaire, là, parce qu'eux calculaient en coudées. Là. Donc, rien dans cette vision-là ne tient la route. Quand on remet le contexte historique, les mesures en coudées et bien sûr l'absence ou l'inexistence de grilles de repères qui étaient la longitude et la latitude, tout ce raisonnement-là, il est tout à fait futile et ne tient pas la route. Donc ça, c'est la première critique qui nous vient à l'esprit. Là, dès qu'on regarde ça, pas besoin d'être un mathématicien sorti de Harvard pour comprendre ça. Là, ça ne tient pas la route, cette affaire-là. La deuxième critique, ben là, évidemment, elle relève du niveau de l'architecture. Rien ne permet de croire qu'un paquet de roches empilées ça permet de créer des ondes gravitationnelles.
Mais non,
t'as beau empiler des roches dans ta cour, là, ça, tu feras pas d'ondes gravitationnelles avec ça. Qu'il y ait la forme d'une pyramide ou pas de forme de pyramide, ça, non. Et c'est amusant parce que cette vision-là où la forme de la pyramide émettrait des ondes particulières, c'est une pensée qui a été développée principalement là, dans les années 70. Ben, on l'avait évoqué avant, mais principalement dans les années 70, on a vu se développer tout un espèce de mouvement ésotérique. Et là, ben, pour les gens qui se rappellent des années 70, ben là, c'était « mets tes carottes en dessous d'une pyramide en verre ». Elles vont pousser ou tes bananes, elles vont perdurer plus longtemps, puis mets ta pomme en dessous d'une pyramide en verre, puis elle pourrira pas. Puis il y avait toutes sortes de croyances comme ça. On met tes lames de rasoir sous une pyramide en verre, puis elles vont s'aiguiser seules durant la nuit. Oui. Évidemment, tout ça, c'est de la foutaise, ça marche pas. Mais on avait développé cette espèce de croyance dans le milieu ésotérique et mystique de l'époque, des années 70, que les pyramides émettaient, par leur forme, dégageaient une espèce d'énergie particulière. Mais il faut quand même le dire, je sais que ça va peut-être décevoir certaines personnes, mais toutes les recherches qui ont été menées, que ta boîte soit en forme de pyramide, en forme de cube ou n'importe quoi, ça marche pas. C'est de la foutaise.
Oui.
Donc, cette idée-là que parce que c'est une forme de pyramide, ça émettrait une onde gravitationnelle, ça n'a pas plus de sens que de dire que, je sais pas moi, le Colisée Pepsi à Québec va émettre des ondes gravitationnelles. C'est une absurdité. Donc ça tient pas la route. Et le troisième élément, puis il est très important celui-là, on a tendance à l'oublier, c'est qu'au moment où on se parle, même si on fantasme beaucoup avec les pyramides, surtout dans le milieu de l'étrange et du mystérieux, on est beaucoup fasciné par les pyramides. Puis pour les avoir vues, là, je comprends, ce sont des monuments qui sont très impressionnants. Mais au moment où on se parle, aucune preuve archéologique n'a jamais été proposée qui permet de croire autre chose que les pyramides étaient simplement des tombeaux. C'était simplement ça, des tombeaux. Il n'y a aucune preuve archéologique qui conteste cette hypothèse-là. Et quand les gens qui connaissent pas bien l'histoire de l'Égypte antique disent « Oui, mais c'est curieux que... » Et j'en reviens un peu à ce que je te disais tantôt. Les gens disent « Oui, mais quand on regarde des tombeaux comme celui de Toutankhamon, par exemple, on voit que les murs sont ornés de fresques grandioses, multicolores, le temple de Sivir. » Dans la vallée des rois, j'ai visité la tombe de Séti, du pharaon Séti. Je pense que c'était Séti Ier. Ça descend à 80 mètres sous le sol. Les murs sont ornés de fresques grandioses.
Ah, ça doit être magnifique.
Or, il n'y a rien... Il n'y a rien de ça dans les pyramides. Alors là, les gens qui connaissent mal l'histoire de l'Égypte antique disent, ben là, voilà, il n'y a aucune fresque, aucun dessin, aucune peinture. Il n'y a strictement rien dans les pyramides. Hein. Tu rentres là-dedans, il y a un corridor qui t'amène à la chambre funéraire, c'est vide. Pas de dessin, pas d'inscription, rien du tout. Mais c'est sous-estimé la présence des temples qui étaient autour. À cette époque-là, dans la vallée des rois, comme dans le cas du tombeau de Toutankhamon, on a creusé une galerie souterraine pour ne placer le pharaon, et l'histoire de sa vie a été racontée sur les murs. Mais dans le cas des pyramides du plateau de Gizeh, on a utilisé les temples qui étaient construits autour pour raconter la vie des pharaons. On n'a donc pas dessiné, on n'a pas peint dans les pyramides. On a laissé les pyramides vierges. On y a simplement déposé le corps du pharaon et tout l'hommage en termes de dessin et des hiéroglyphes était dans les temples. Les gens allaient dans les temples, se remémoraient la grandeur du pharaon en lisant sur les murs des temples l'histoire du pharaon. Donc c'était inutile de refaire ça dans le tombeau, là. Après ça, quand on a changé d'ailleurs, quand les Égyptiens ont abandonné la construction des pyramides, on s'est mis à faire des dessins dans les tombes souterraines. Et il n'y a pas non plus vraiment de fresques ou de dessins grandioses dans les autres pyramides en Égypte. Les pyramides du plateau de Gizeh ne sont pas les seules. Il y a les pyramides la pyramide rhomboïdale à Dachour, il y a la pyramide à degré à Saqqara. Il y a d'autres pyramides en Égypte, d'autres pharaons qui n'ont pratiquement aucun dessin non plus à l'intérieur. Donc, on voit que c'était les temples funéraires qui servaient à cette expression-là. Donc, actuellement, aucune preuve archéologique n'a jamais été avancée qui remette en question l'idée que les pyramides étaient simplement des tombeaux. Voilà. Donc, cette histoire de pyramides, balises interstellaires, c'est encore une fois de la foutaise.
Science-fiction.
Ouais, absolument. Science-fiction.
Christian, si tu le permets, on pourrait faire une courte pause. Au retour, d'autres sujets okay. passionnants comme le mystère du Marie.
Du Marie Céleste.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Ouais, je vais te le raconter. On revient là-dessus.
Bougez pas, vous êtes dans les Radio X Fire sur les ondes de choix 98.1 Radio X.
Radio X Fires.
Avec Christian Page.
Radio X, le show du matin.
Weekend.
C'est aphrodisiaque pour moi.
Avec Carbo.
Ça pas de bon sens.
Samedi et dimanche, 6h.
Radio X.
Présenté par Silencieux Proto. Votre voiture fait du bruit? Silencieux Proto évalue votre véhicule sans frais, répare et fabrique vos systèmes d'échappement sans rendez-vous. Silencieux Proto, à Québec et Lévis.
Chez Tulle Martel, leur réputation est dure comme le roc et leur enrochement aussi. Marche murée en pierre naturelle pour un terrain qui a du style. Et pour l'excavation, évitez le mal de dos, faites affaire avec les pros de Tulle Martel. TulleMartel.com.
Les Dumplings Fusion débarquent chez Tyson. Trois nouvelles saveurs. Dumplings ailes de poulet buffalo, Dumplings kimchi porc cornichon et Dumplings mac and cheese. Trois nouvelles saveurs audacieuses. Pour un temps limité, Tyson le taille de qualité.
Vos assurances vous semblent trop chères? Venez les magasiner sur clicassure.com. Assurance habitation, automobile, entreprise, vie, obtenez les meilleurs prix. Pour tous vos besoins d'assurance, économisez avec clicassure.com.
Vous rêvez d'un spa sans tracas qui s'occupe lui-même de son traitement de l'eau? Choisissez Arctic Spa. Finis les tests d'eau avec le système Spa Boy exclusif à Club Spa. Venez profiter de la grande vente du manufacturier Arctic Spa. Club Spa, une entreprise familiale depuis 45 ans. Livraison partout au Québec.
Paradis, paradis.
Besoin de conseils pour vos fleurs, vos arbustes et tout ce qui pousse? Chez Paradis, notre équipe de conseillers est là pour répondre à toutes vos questions avec le sourire. Et ça, ça fait toute la différence. Paradis Jardins et Accessoires, membres Botanix, on cultive le bonheur.
Retrouvez le plaisir de sourire en toute confiance. Au Centre dentaire Cartier, anciennement Girard et Martineau, l'implantologie dentaire, on s'y connaît. Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une consultation sans frais et découvrir nos solutions sans greffe osseuse. Nous offrons également des soins dentaires complets, du nettoyage à la dentisterie esthétique pour toute la famille. Centre dentaire Cartier, c'est une équipe humaine et professionnelle qui saura être disponible et à l'écoute de vos besoins. Alcartier Québec.
Allô, c'est moi, ton sommeil. Dormez-vous et moi, on voulait te jaser de quelque chose. Dans les 10 dernières années, pense à tout ce qui a changé. T'as changé de job, t'as changé de maison, t'as changé de voiture, t'as changé de lunettes, de gym, t'as changé de shampoing, t'as même changé d'opinion sur la K-pop. Ça, je m'y attendais pas, celle-là, d'ailleurs. Là, ça serait peut-être le temps de changer ton lit. J'ai jasé de ça, d'ailleurs, avec ton mal de douille, il est super d'accord.
Pendant l'événement Allez, on change, obtenez jusqu'à 20 % de rabais sur les matelas, draps, couettes et plus encore. Faites vite, c'est pour un temps limité. Seulement chez Dormez-vous. Les conditions s'appliquent.
Salut! C'est Carbo. L'humidité, le calcium, c'est dévastateur pour votre voiture. En ce moment, Crown vous offre 20 $ de rabais sur son traitement contre le calcium et 10 sur son anti-rouille. Des produits d'ici conçus pour les voitures d'ici. Trouvez le centre le plus près au crown.com.
Le 1er juillet approche et vous n'avez toujours pas trouvé de logement. Vous avez cherché partout et vous ne savez plus quoi faire. Vous pouvez compter sur les services d'aide à la recherche de logement des offices d'habitation. Ils sont là pour vous accompagner dans vos recherches. Contactez-les sans tarder. Ce service est gratuit. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/recherche-logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
C'est la grosse vente chez Maxi, fait qu'on a sorti le gros stock. Le melon d'eau à 3,77 $, le steak de l'Oyo à 9,88 $ la livre, 21,78 $ le kilo, le fromage du Québec à 5,47 $. Grosse vente, grosse économie. Plus de détails en circulaire et chez Maxi.
Vous rêvez de vivre la van life le temps d'un voyage? Van Trotter offre la location de campeurs autonomes haut de gamme pensés pour être aussi pratiques qu'esthétiques. Réservez votre escapade au vantrotter.ca. Van Trotter, voyagez autrement.
Vous avez de grands projets pour votre cour? Réalisez-les grâce au Centre de vrac Saint-Jean. Terre à jardin, terre à gazon, compost, pierre décorative, sable, gravier, paillis, des matériaux d'excellente qualité, le tout en vrac, chargé dans votre remorque en moins de 5 minutes ou en livraison. C'est le temps de démarrer votre projet de jardin. Passez en magasin dès maintenant et payez même à l'extérieur. Le Centre de vrac Saint-Jean, ouvert du mardi au dimanche, même les jours fériés. Centre de vrac Saint-Jean.ca.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Les Radio X-Files présentés par Tibi Taxi. Besoin d'un taxi rapidement? Ouvre et télécharge l'application Tibi Taxi dès maintenant. Simple, rapide et efficace. Tibi Taxi, on roule pour le Québec.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Files après cette courte pause. Et juste avant, on se disait qu'on allait parler du mystère du Marie-Céleste, dont j'ignore totalement l'histoire.
Donc, je vais te mettre un peu dans le parfum de cette histoire.
Oui.
C'est considéré comme l'une des plus grandes énigmes maritimes de tous les temps. Donc, je te place un peu dans le contexte. On est le 4 décembre 1872. On a un navire canadien qui s'appelle le Dei Gratia, qui navigue près des Açores. Et là, il voit un navire qui semble dériver au large. Et ce navire-là, ben, il va s'en approcher et il constate que le navire en question, ça porte le nom de Marie-Céleste. Le Marie-Céleste a été construit au Canada, en fait, il a été construit en Nouvelle-Écosse, mais à ce moment-là, il est la propriété d'une compagnie new-yorkaise et il est en route vers Gênes, en Italie, pour livrer une cargaison de 1700 fûts d'alcool. Et donc, le Dei Gratia s'approche du Marie-Céleste et là, ben, on constate, d'abord, on fait sonner la cloche, tout ça, il n'y a pas de réponse, on s'approche, on est en après-midi et là, on s'approche, on peut lire le nom sur la proue du navire, le Marie-Céleste. Et ce que constatent les hommes du Dei Gratia, c'est que le Marie-Céleste est plutôt en mauvais état à ce moment-là. Toutes les voiles sont sorties, mais les voiles sont déchirées. Et le navire, bon, il tangle et eux ne voient personne sur le pont du navire. Donc, encore une fois, on sonne les cloches, il n'y a rien qui se passe. Le capitaine du Dei Gratia, dénommé Morehouse, va envoyer deux de ses hommes à bord du Marie-Céleste pour voir ce qui se passe. Les hommes vont monter à bord du Marie-Céleste, ils vont constater que tous les hublots sont ouverts, que le navire a embarqué pas mal d'eau. Hein, toutes les coursives sont inondées, mais et que les voiles, ben, plusieurs de ces voiles-là ont été déchirées et emportées par le vent. À l'intérieur du bateau, la dernière ardoise, là, donc l'endroit où on écrivait le journal de bord du navire, la dernière indication remonte à la dernière semaine du mois de novembre. Ça veut donc dire, comme on est le 4 décembre, qu'il semble que le navire est bourlingué, là, si je puis dire, pendant peut-être une dizaine de jours, sans équipage. Et pourquoi l'équipage a-t-elle abandonné le bateau? Parce que le bateau n'était pas, à ce moment-là, le bateau, même s'il embarquait beaucoup d'eau, tout ça, le navire n'est pas endommagé, là. Le navire, je veux dire, il a embarqué de l'eau parce que les hublots sont ouverts, puis les vagues ont éventuellement rentré par les hublots. Ouais. Puis les voiles ont été emportées par le vent, mais le navire, je veux dire, tu fermes les hublots, puis tu mets des bonnes voiles.
Ouais, c'est ça.
Merci, bonsoir. Il n'y a aucune raison qui fait que l'équipage soit pas là. Et la cargaison, elle est toujours à bord du navire. Donc, c'est pas un acte de piraterie où on aurait... L'équipage est composé d'une dizaine d'hommes, à peu près. Et il y avait également le capitaine qui était le capitaine du navire, qui était là, qui avait sa femme et sa fille avec lui. Donc, le capitaine Briggs. Et à part de ça, ce que l'on constate, c'est que les instruments de navigation, le compas, sextant, ont disparu. Il y a un canot de sauvetage qui est manquant. Il y avait deux canots à bord d'une Marie-Céleste. Il y en a un qui est manquant. Une corde qui part des voiles. Une des cordes d'égréments pend dans l'eau. Mais c'est à peu près tout.
OK.
Bon, là, évidemment, l'histoire va... Dans des histoires un peu de fiction, on va raconter qu'il y a un repas sur la table de cuisine qui est encore chaud. Mais c'est pas vrai, ça, là. Et tout porte à... Les lits sont faits dans les cabines. Ce qui montre bien que l'événement s'est produit soit en milieu de matinée ou soit en milieu d'après-midi. Donc, comme il n'y a pas de repas qui est en préparation, la vaisselle a été lavée. Ça veut dire que c'est ou avant le repas du midi ou avant le repas du soir. Tu comprends? Donc, on a à peu près cette idée-là. Mais rien ne permet de comprendre ce qui s'est passé. Donc, le Dei Gratia va accrocher le Marie-Céleste et on va le remettre un peu en état de naviguer, on va y réinstaller de nouvelles voiles. Et ensuite, le Marie-Céleste va entrer de son propre chef. Hein. On va mettre des hommes à bord. Et ensuite de ça, ben, le Marie-Céleste va naviguer, il va se rendre jusqu'à Gibraltar. Parce que là, il faut rapporter que le navire a été trouvé abandonné. Donc, le Dei Gratia et le Marie-Céleste, naviguant côte à côte, vont se diriger à Gibraltar. Et là, il y aura une enquête pour laquelle on ne trouvera pas vraiment d'explication sur ce qui s'est produit. Ça devient le plus grand mystère de la mer. Là. Pourquoi l'équipage a-t-elle abandonné le Marie-Céleste? Bon, en réalité, il y a plusieurs explications possibles. Et je me rappelle, j'ai vu récemment une vidéo d'un ufologue québécois qui présentait cette histoire-là en disant « C'est un mystère insoluble. » Ouais, un mystère insoluble. Ça fait quand même 50 ans qu'on sait à peu près ce qui s'est passé. Là. Bon, fait que le mystère insoluble, tu t'es pas donné beaucoup d'efforts pour ne pas le trouver. Et c'est un peu la raison de ma nouvelle d'aujourd'hui. Ce que tout le monde à peu près est d'avis, c'est que c'est la cargaison du Marie-Céleste qui est en cause. Le navire transportait des barils d'alcool brut. C'est un alcool que tu peux pas boire. Là. C'est de l'alcool brut. C'est un peu comme l'alcool que tu mets si tu as une blessure. Hein. Tu dis, bon, on met de l'alcool à 90 %, ça, tu bois pas ça. Là. Bon, et quand le navire est arrivé à quai, il transportait 1700 fûts d'alcool. Et quand il est arrivé à quai, on s'est aperçu qu'il y avait 9 de ces fûts. Les fûts, hein, c'est des barils en bois. Là. Donc, il y avait 9 fûts qui étaient complètement vides. Ce qui veut donc dire que leur contenu en alcool s'est déversé à l'intérieur du bateau. Ce qui était normal. Ouais, hein, c'est des barils en bois. Là. C'est pas des barils en caoutchouc. Puis les barils, ben, comme ils sont attachés dans la cale, le navire bouge. Hein. Tu t'imagines un peu le contexte des barils en bois. Ils sont ceinturés avec une lamelle d'acier. Là, là. Mais bon, si les barils se cognent les uns contre les autres dans le transport, il est possible qu'il y ait un fendillement dans le bois et qu'il y ait un écoulement. C'est pas nécessairement étanche. Donc, c'est normal que sur une cargaison de 1700 barils, il y en a quelques-uns qui aient fui et que leur contenu se soit déversé. Donc, en fait, c'est pas très mystérieux quand on constate que 9 barils d'alcool ont été vidés. On se dit, ben là, il y en avait 1700, il y en a 9 qui se sont vidés dans le cale, merci, ce qui représente à peu près 1100 litres. Donc, voilà. Mais avec le temps, quand on regarde les données du problème, on constate qu'il y a quelque chose qui a on a un scénario vraisemblable. On est d'accord ici que dans l'absolu, on n'a pas de certitude. Mais on a un scénario vraisemblable. Et ce scénario vraisemblable, c'est que l'alcool brut, il a à peu près les mêmes qualités que l'éthanol. Et il dégage des vapeurs tout à fait toxiques.
Okay.
Benjamin Spooner Briggs, qui était le capitaine du Marie-Céleste, c'était la première fois qu'il transportait ce type de cargaison. Il n'y avait aucune connaissance sur comment manipuler une cargaison comme celle-là. Et tu manipules pas des fûts d'alcool comme des bâtons de dynamite, comme tu transportes des colliers à chiens. Là. Ça marche pas, c'est pas la même chose.
Ouais, je comprends.
À l'époque, transporter des fûts d'alcool de cette manière-là, il fallait obligatoirement aérer le navire et aérer les cales pour empêcher que les vapeurs toxiques, hein, c'est un peu comme si tu te mets dans une pièce fermée et tu utilises de l'éthanol. Ben, je veux dire, à un moment donné, tu vas t'asphyxier avec l'éthanol. D'abord, tu vas tomber dans un état un peu euphorique. Hein? Et après l'état euphorique, tu vas t'empoisonner, tu vas mourir. Donc, c'est pourquoi il fallait absolument faire aérer le navire si on transportait des fûts d'alcool. Ce que, visiblement, Benjamin Spooner Briggs a négligé de faire. Donc là, le scénario numéro un. Le navire circule. Au moment où il part de New York, la température n'est pas assez élevée pour produire des vapeurs. Mais plus le navire se rapproche de l'équateur, et je te rappelle qu'il a été trouvé au large des Açores, et à ce moment-là, la température était... Parce que dans ce type de cargaison-là, la problématique devient importante après 13 degrés centigrades, soit 55 degrés Fahrenheit. Au-dessus de cette température, là, on commence à produire des effets de vapeur. Or, le navire au large des Açores était soumis à une température beaucoup plus élevée que ça. Si Benjamin Spooner Briggs n'a pas fait aérer le navire, ben à un moment donné, cette vapeur-là est d'autant plus que je te rappelle que 9 fûts d'alcool s'étaient vidés de leur contenu, donc 1100 litres. Ce 1100 litres au fond de la cale avec la chaleur, bien évidemment, à l'intérieur, c'est un peu comme dans ta voiture. Hein. Si tu fermes les fenêtres, tu n'ouvres pas les portes, la chaleur devient intenable à bord de ta voiture. Ben, c'est exactement la même chose. Puis n'importe qui visite une vieille maison en bois, une vieille cabane en bois, en plein été, quand tu entres à l'intérieur, la chaleur est étouffante. C'est exactement ce qui s'est produit sur le Marie-Céleste. La chaleur a augmenté, sans aération. Cette vapeur-là, éventuellement, a commencé à se ressentir partout sur le navire. Et on peut supposer que quelque part aux alentours du 25 novembre 1872, des marins ont commencé à se plaindre qu'il devait y avoir... L'odeur devait se répandre même à travers le bateau, là, pas seulement dans la cale, mais partout.
Cette odeur-là
devait être... On devait la ressentir. Et à ce moment-là, probablement, on peut supposer que Benjamin Spooner Briggs, parce que quand on a retrouvé le navire abandonné, il y avait les voiles qui flottaient là, au vent, tout ça, mais on a remarqué que la trappe de la cale était ouverte et toutes les fenêtres étaient ouvertes. Donc, on suppose que Briggs est allé ouvrir la cale du bateau. Et en ouvrant la cale du bateau, le bagne sentit l'odeur d'éthanol. Or, l'éthanol il peut exploser. Hein, a la capacité d'être très inflammable. Briggs a peut-être eu peur à ce moment-là que la vapeur s'enflamme. Il a demandé à... C'est un scénario, là, on s'entend bien, là. Il aurait demandé à tous ses hommes de rentrer dans le bateau, d'ouvrir toutes les fenêtres pour faire aérer le navire. Et probablement que déjà à ce moment-là, il commençait à être engourdi par les odeurs d'éthanol. Donc, il a demandé de prendre un des canots de sauvetage, de l'attacher à une des cordes des gréements et de la mettre à la traîne derrière le bateau. Et eux sont montés à bord.
Okay.
L'idée était de laisser le bateau s'aérer.
Oui, oui.
Hein? Donc, eux étaient à la remorque du Marie-Céleste dans le canot de sauvetage avec les instruments. Et ils se sont dit, on va laisser le bateau là, peut-être naviguer une demi-journée, comme ça, il va avoir le temps de s'aérer comme il faut, et ensuite, on remontera à bord. Mais le câble s'est brisé ou s'est détaché. Et comme les voiles du Marie-Céleste étaient entièrement ouvertes, l'équipage qui était réuni sur le canot de sauvetage n'ont jamais été en mesure de rejoindre le bateau à ce moment-là. Ça a fait... clac, la corde a cassé. Et là, ils ont vu le Marie-Céleste qui se distançait de eux. Ils avaient beau essayer de ramer, il n'y avait aucune chance de remonter à nouveau sur le Marie-Céleste. Donc, ils ont péri en mer. Le Marie-Céleste, toute fenêtre ouverte, la cale ouverte, a continué de bourlinguer pendant une dizaine de jours sans équipage. Et c'est là que, le 4 décembre 1872, les hommes du Desgracieux ont trouvé le Marie-Céleste. C'est un scénario qui est tout à fait vraisemblable, qui correspond à tous les éléments qu'on retrouve sur le Marie-Céleste. Les fenêtres ouvertes, la trappe ouverte, les fûts d'alcool, les 9 fûts d'alcool qui se sont vidés, les qualités très particulières qu'a l'alcool brut, hein, qui ressemble à de l'éthanol, à la fois de pouvoir s'enflammer, à les risques d'incendie, mais également cet effet d'intoxication. Donc, c'est une hypothèse. Il y a une autre hypothèse qui avait été évoquée, et c'est d'ailleurs l'objet de pourquoi je te parle de ça aujourd'hui. Oui. Une hypothèse qui disait qu'il y avait peut-être eu une explosion à bord du Marie-Céleste. Et là, voilà que des chercheurs une explosion qui aurait entraîné cette espèce de peur panique qui aurait amené les gens à monter dans le canot de sauvetage et à abandonner le Marie-Céleste, soit tout le moins de s'attacher derrière, puis finalement la corde. La finale est toujours la même. La corde se brise, la corde se détache, puis les gens se trouvent perdus. Mais qu'est-ce qui les a amenés là? Est-ce que c'est l'odeur de l'éthanol ou est-ce que c'est l'explosion? L'explosion, donc, elle revient sur le devant de la scène avec une expérience qui a été menée il y a quelques jours par un scientifique qui s'appelle Jack Robontam, qui est un professeur à l'Université de Manchester, en Angleterre, et qui a mené une expérience il y a quelques jours pour un documentaire qui est en train de produire Channel 5 en Angleterre, qui va parler justement de l'énigme du Marie-Céleste. Et dans son expérience, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il montre que si tu produis de l'éthanol dans un endroit fermé, puis que tu déclenches une étincelle, tu vas produire une explosion, mais c'est une explosion sans flamme. C'est simplement un boom, tu comprends?
Oui.
Et le boom, ben lui dit, ben voilà, ça a fait boom, et ça crée une espèce de flamme bleue, mais c'est une flamme qui dure le temps de l'explosion. Là. Tu sais, c'est pouf, comme ça.
Et comme une expansion de l'évapeur.
Voilà.
Ouais.
Voilà, ça a fait boum, la trappe de la cale s'est ouverte, ils ont vu une espèce de boule de feu sortir de la cale, et là, ils ont pris panique, puis se sont sauvés. Bon, que ce soit ça ou les vapeurs, c'est un peu la même chose, mais moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette explication-là. Parce que il y a des éléments que je trouve que le professeur Robontown ne tient pas compte dans son explication. Je ne dis pas qu'elle est impossible, mais je ne crois pas que c'est ce qui s'est produit. Parce que dans son explication, dans sa démonstration, qui est le fait que j'ai vu d'ailleurs, là, qui prépare pour le Channel 5, on voit cette flamme bleue puis tout ça. Et lui, il dit, ben voilà, les gens n'ont pas accepté, les gens rejettent l'hypothèse de ça parce qu'il n'y a pas de trace d'incendie. Il n'y avait pas de trace d'incendie à bord du Marie-Céleste. Puis tu sais, c'est normal parce que cette flamme-là, cette flamme bleue, elle ne perdure pas. Hein. C'est simplement comme une explosion de feu, puis ça s'arrête là. Et le bois, puis on sait, quand on allume un feu de camp, là, hein, c'est beau, t'as beau mettre ton papier journal, ça demande quand même un certain temps. Il faut que ton morceau de bois soit exposé aux flammes avant lui-même de prendre en feu. Donc, la flamme n'a pas perduré suffisamment longtemps pour incendier le navire. Ouais. C'est la raison que propose Robontown pour dire, ben voilà, ça explique pourquoi il n'y a pas de trace d'incendie sur le Marie-Céleste. Mais pourquoi, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est que je trouve que Robontown met de côté deux éléments très importants. Si c'est vrai que les marins du Marie-Céleste avaient été surpris par une soudaine explosion, est-ce que les marins seraient retournés à bord du Marie-Céleste pour ouvrir les fenêtres? Mais s'il y a un feu qui se déclare dans la maison chez vous, là, tu ne rentreras pas dans la maison après pendant que le feu est là pour dire « Hey, m'allez ouvrir les fenêtres! » Non, tu ne feras pas ça. Donc, Robontown ne tient pas compte du fait que quand on a retrouvé le Marie-Céleste, toutes les fenêtres avaient été ouvertes, ce qui montre bien une action intentionnelle d'ouvrir ces fenêtres-là. Si les marins avaient vraiment été surpris par une explosion, je ne sais pas que ce n'est pas possible, mais à mon avis, ils n'auraient pas pris le temps par la suite de descendre dans le navire pour aller ouvrir les fenêtres, les hublots en fait, et également amener avec eux les instruments de navigation. Ils n'auraient jamais fait ça. Deuxième élément, l'explosion à laquelle fait référence Robontown, je veux bien croire qu'on n'ait pas trouvé de traces d'incendie à bord du Marie-Céleste et que si la flamme était très éphémère, comme le propose Robontown, que cette flamme-là n'ait pas mis le feu dans le Marie-Céleste, c'est vrai. Mais l'explosion aurait endommagé l'intérieur du Marie-Céleste. Tu sais, si toi, tu es dans un lieu fermé puis tu fais sauter un bâton de dynamite, si le feu ne prend pas, ça va paraître. Les feux d'alcool qui étaient dans la cale auraient été éventrés. Mais c'est pas ça. Il n'y avait aucun fût d'alcool éventré. Il y en avait qui étaient vides, mais vides simplement parce qu'ils avaient perdu leur étanchéité. Mais ils n'avaient pas été éventrés. Donc, rien ne permet de croire qu'il y a eu quelque explosion que ce soit à bord du Marie-Céleste. Donc, l'explosion que propose le professeur Robontown, professeur de chimie d'ailleurs à l'Université de Manchester, elle est vraisemblable. Elle est possible. Mais si on remet dans le contexte l'ensemble des éléments, des petits détails, et comme le dit l'expression, le diable se cache souvent dans les détails, mais quand tu remets dans tous les détails en place, l'absence d'une destruction qui aurait été due à une explosion, le fait que les hublots étaient ouverts, le fait qu'on ait amené avec eux, que les marins du Marie-Céleste aient amené avec eux des instruments de navigation, montre bien qu'il y avait une volonté d'aérer le Marie-Céleste, mais que le fait d'avoir quitté le navire s'est fait avec empressement, mais pas dans la panique. Ce qui aurait été différent s'il y avait réellement eu une explosion. Donc, même si c'est une explication qui sera présentée à Channel 5, cette histoire d'explosion dans la cale, elle est possible, mais je maintiens, et c'est la position que... À chaque fois que j'ai parlé du Marie-Céleste, et j'ai eu la chance d'avoir des morceaux du Marie-Céleste, hein, le bateau a été remis en circulation, et puis quelques années après, le nouveau capitaine du bateau l'a lui-même envoyé un acte de baraterie, non, donc pas de piraterie, mais de baraterie, c'est-à-dire on saborde le navire soi-même, il l'a envoyé contre les récifs de Rochelet dans la baie de Gonaïves en Haïti, et le navire recoulait à cet endroit-là. Et au début des années 2000, il y a une équipe d'archéologues sous-marins qui ont retrouvé l'épave et j'ai eu la chance de parler avec eux et de manipuler des débris du Marie-Céleste. C'est quand même fantastique. À toutes les fois où je lui ai parlé du Marie-Céleste, j'ai toujours évoqué l'idée de cette espèce de vapeur d'éthanol qui a dû se répandre sur le navire et qui a incité les hommes à quitter le navire rapidement, mais pas non plus dans la précipitation. Et à mon avis, c'était l'idée était d'aérer le navire. Donc, je maintiens encore ma position. C'est certainement cette explication qui est la bonne. Et contrairement à ce que comme je te disais, ce que j'avais entendu un ufologue raconter, non, le mystère du Mag Célèbre, du mystère du Mag Céleste n'est pas impénétrable. Loin de là, on a d'excellentes possibilités d'explication.
Ouais, très plausible, en effet, Christian Page. Fort intéressant, d'ailleurs. J'en ai appris encore beaucoup dans cette autre édition des Radio X-Files.
C'est merveilleux.
Mais, il me reste à te souhaiter à toi et aux auditeurs un excellent week-end.
Oui, toi aussi.
Et on se reparle vendredi prochain.
La semaine prochaine, bien oui, absolument.
Bon week-end.
Bon week-end à tous. Bye-bye.
Merci, bye. C'était les Radio X-Files sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Au retour, bougez pas, c'est la Sexploratrice. This
is not a test. Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
Les Radio X-Files présentés par Tibi Taxi. Besoin d'un taxi rapidement? Ouvre et télécharge l'application Tibi Taxi dès maintenant. Simple, rapide et efficace. Tibi Taxi, on roule pour le Québec.
Le Carbo. Show.
Avec.
Allô?
Carbo.
Oui, c'est le Carbo?
Lundi au jeudi, 18h.
Radio X.
Présenté par EXP Artisan Brasseur à Val-Bélair. Bière remarquable brassée sur place, terrasse plein soleil et nachos décadents. Suis-nous sur Facebook EXP Artisan Brasseur.
Capsule
Radio X.
La promotion la plus attendue est de retour chez Lunetterie Bella. Tout le mois de mai, achetez une paire de lunettes complètes et recevez la deuxième gratuitement. Économisez jusqu'à 420$ chez Lunetterie Bella, Marie-France Proulx, opticienne. Barbecue, accessoires, cours de barbecue de tous les niveaux, sauces, épices et plus encore, on a tout ce qu'il faut pour le barbecue chez Barbecue Québec. Viens jaser avec des passionnés, Québec, Boucherville et Laval, barbecuequebec.com. Chez Desjardins Ford, découvrez le F-150-2026 avec énormément d'inventaire et un financement à 0% jusqu'à 72 mois. Le Bronco Sport 2026 à partir de $89 par semaine et le Explorer 2026 dès $129 par semaine, location 60 mois. Chez Desjardins Ford, 175 rue du Marais. Pour vos projets de construction ou de rénovation, direction tôle ou ailette. Une vaste gamme de matériaux, bois brut, tôle à toiture, tôle murale, pliage d'acier et d'aluminium sur mesure. Réalisez toutes vos idées. Passez-nous voir en magasin ou visitez le matériauxouellette.com.
Tivière Géfis, l'expert en puits artésiens, pompes et traitements d'eau, effectue vos travaux de forage. Qu'ils soient complexes, de grand diamètre ou sur des terrains sinueux. Tivière Géfis, c'est la référence dans la grande région de Québec et des environs. Tiviergéfis.com.
Voyage Melguilmette souffle un vent de nouveautés dans ses trois agences. Le même service spécialisé sous une nouvelle identité. Partenaire de vos évasions outre-mer, en croisière ou votre propre itinéraire. On voyage avec vous. Voyage Melguilmette.com.
Vous êtes à la recherche de la meilleure équipe pour vendre votre propriété? Pour une expérience clé en main, pensez l'équipe Claudie Asselin. Côté 5 étoiles sur Google. Une équipe formée, à jour sur les lois, puis surtout, là pour toi. Rive-Sud et Rive-Nord de Québec, ils couvrent tout. Au printemps, c'est le meilleur moment pour vendre. Les acheteurs sont au rendez-vous. C'est le moment d'afficher votre propriété. Elle vaut sûrement plus que vous pensez. L'évaluation est gratuite. Appelle-nous 581-983-1818 claudieasselin.com.
Vivace ou annuel? Telle est la question. Fanny de ne pas être bien conseillée? Pour un bouquet de choix, une Floralie de couleur. Faites-vous une fleur et passez chez Floralie Jouvence, votre centre jardin sympathique. À Québec et Lévis, ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21h.
Hey, mon Yvan, t'es-tu rendu à la retraite?
Ouais, le mois prochain.
Ben voyons donc, t'es ben trop jeune pour rester planté chez vous.
Jeune? Oh, on va se calmer. Disons que je suis rendu là.
Tu vas faire quoi? Tu vas commencer à te chicaner avec Cathy?
Ah, regarde, je vais me trouver de quoi.
Entretien Capital recrute. Poste à temps partiel disponible 15, 20 ou 25 heures par semaine selon ton horaire. Une équipe solide en affaires depuis plus de 35 ans avec des emplois partout dans la grande région de Québec. Facile à trouver sur Facebook et en ligne. Cherche Entretien Capital, pas de E à Capital.
C'est parfait pour toi, ça, mon Yvan.
T'as bien raison, mon popol.
Si ça marche, c'est toi qui paye le lunch la prochaine fois.
Entretien Capital, pas de E à Capital.
Offrez-vous le club de golf Florette à $59. Tous les départs de 14h à 16h sont à $59 avec une demi-voiturette électrique et une consommation après votre ronde. Le club de golf Florette, depuis plus de 100 ans, du golf de qualité. golfflorette.ca.
Tu veux vendre ta maison, mais t'as pas envie de faire le ménage, les rénos, les photos, les visites, sans compter tous les acheteurs qui changent d'idée. Avec Simple Immo, oublie tout ça. Nous autres, on achète ta propriété telle qu'elle. Tout ce que t'as à faire, c'est remplir le formulaire en ligne. Puis en moins de 30 jours, l'argent est dans tes poches. Puis tout ça sans payer aucun frais. Chez Simple Immo, c'est plus que simple. Simplimo.ca 418-883-0536.
Pour le lavage et l'entretien de vos toiles, pensez à nettoile.com. Nettoile lave et imperméabilise vos toiles d'auvent, toiles de bateau, tentes roulottes, roulottes hybrides, auvent ou ses coussins, rideaux pour terrasse et plus. On enraye les moisissures, élimine les taches, répare et protège vos toiles contre les rayons UV. Vous avez une toile à nettoyer ou à réparer? Appelez les meilleurs, appelez nettoile.com. 418-843-1011.
Chez RA+, votre confort, c'est notre priorité. Climatisation, thermopompe, installation et réparation rapide, un service clé en main. Distributeur de la marque Mouvert. Mouvert, numéro 1 selon Protégez-vous. En plus, courez la chance de gagner un crédit voyage de 5 000 $ tiré parmi notre clientèle. Détails et règlements sur notre site web aira+.ca. RA+, plus de services, plus de confort.
Il y a du neuf chez Tapis Extra. On restaure vos planchers de bois franc, sans poussière, sans odeur. Les résultats sont extra impressionnants. C'est promis. Contactez-nous pour une évaluation gratuite.
Tapis Extra, Saint-Sacrement, Québec.
En fin de semaine, écoute Légende du rock.
Tu pourrais gagner l'un des 7 laissés-passer doubles pour le Festibiaire de Lévis. Du 25 au 28 juin, c'est le Festibiaire de Lévis au Quai Paquette avec tes exposants préférés, Matt Lang, Valère, un hommage aux Cowboys fringants et plus encore. Tous les détails